Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi soir 22 janvier 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'opération terroriste à Bagdad et les allégations tenues par Netanyahou ne visent qu'à affronter de l'Iran, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. L'Iran a vivement condamné ce double attentat terroriste à Bagdad, capitale irakienne. Et la défense anti-aérienne de Syrie a repoussé une nouvelle agression israélienne. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. L'opération terroriste à Bagdad et les allégations tenues par Netanyahou ne visaient qu'à affronter l'Iran, a insisté le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, avant d'ajouter que les plans insidieux contre l'Iran sont voués à l'échec. Des attentats terroristes à Bagdad ou de l'échage de bottes par Netanyahou, bien qu'il s'agisse de nouvelles bottes, tous n'ont qu'un seul objectif, piéger un autre président aux États-Unis pour dépenser du sang et des trésors en vue d'affronter l'Iran, a-t-il souligné. Malgré cette obsédée curiosité digne d'une des grimaces, les complots lâches contre l'Iran finiront encore par échouer, a-t-il souligné encore. Et le chef de la diplomatie iranienne avait déjà salué cet mercredi le départ de Donald Trump de la Maison Blanche, affirmant que lui et son administration avaient été jetés dans les poubelles de l'histoire. Trump, Pompeo et compagnie ont été jetés dans les poubelles de l'histoire, avait-il écrit sur sa page de Twitter après la prestation de serment de Joe Biden. Le ministre iranien des Affaires étrangères avait également assuré que les Iraniens continueraient de se souvenir du général martyr Qassem Soleimani et des milliers de personnes assassinées et privées de nourriture ou de médicaments par l'administration Trump, dont les actions ont été qualifiées de terrorisme et de crimes contre l'humanité. Le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné par la voix de son porte-parole le double attentat terroriste perpétré dans un marché populaire de Bagdad, capitale irakienne, faisant plus de 30 morts et blessant plus de 100 personnes parmi les civils innocents. L'attaque la plus sanglante depuis plus de 3 ans dans la capitale irakienne, Bagdad. Faisant part de sa compassion à l'égard des proches et des familles des victimes, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a exprimé les condoléances et la solidarité de l'Iran au gouvernement et au peuple irakien. Le terrorisme Takfiri, en ressuscitant Khada, a ciblé l'Irak. Ce terrorisme cherche à perturber la paix et la stabilité de l'Irak et à fournir une excuse pour une présence continue des étrangers. C'est par ces mots qu'il a réagi à ces attentats terroristes perpétrés à Bagdad, capitale irakienne. La République islamique d'Iran, comme par le passé, est prête à apporter toute assistance aux frères irakiens dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, a-t-il affirmé. Les États-Unis, l'Arabie saoudite était derrière les attentats terroristes de Bagdad, a déclaré de son côté le Kataeb Hezbollah, groupe de résistance irakien, en réaction à ces deux attentats terroristes qui ont ensanglanté de Bagdad. Le groupe de résistance irakien Kataeb Hezbollah a qualifié d'axe du mal les États-Unis, le régime israélien et l'Arabie saoudite, affirmant que ces derniers avaient orchestré les explosions de Bagdad. L'axe du mal américain et israélo-saoudien a repris ces crimes abominables contre la nation irakienne en visant un marché fréquenté par des Irakiens des innocents, a annoncé le groupe de résistance irakien Kataeb Hezbollah, et d'ajouter la simultanéité de ce crime avec la prise de fonction de la nouvelle administration américaine prouve comment l'axe du mal reste déterminé à mettre à exécution ces plans qui veulent faire renoncer les Irakiens à leur décision d'expulser les militaires étrangers de l'Irak, a souligné dans son communiqué Kataeb Hezbollah. La Syrie aussi a condamné de vivant le double attentat terroriste survenu à Bagdad dans une déclaration à l'agence de presse syrienne Sana. Une source officielle du ministère syrien des Affaires étrangères a indiqué que la Syrie condamne avec les termes les plus sévères le double attentat terroriste survenu sur la place d'Al-Tayaran, au centre de Bagdad, et qui avait fait de nombreux tués et blessés parmi les civils innocents. Les défenses anti-aériennes de l'armée syrienne ont déjoué vendredi à l'aube une nouvelle agression israélienne. Une source militaire a déclaré à Sanaa de 4 heures du matin vendredi, l'ennemi israélien avait lancé une agression aérienne aux missiles depuis la ville de Tripoli, la ville libanaise de Tripoli, visant ainsi un certain nombre de civils à la périphérie du gouvernorat. De la défense anti-aérienne de Syrie a déjoué cette nouvelle agression israélienne. Et des ambassadeurs des pays des Africains réunis mercredi et jeudi pour la 41e session ordinaire du comité des représentants permanents de l'Union africaine ont appelé à des efforts continus dans la lutte contre la pandémie du coronavirus et à une réforme institutionnelle de l'Union africaine. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Les intimidateurs qui cherchaient à terrasser l'Iran ont fini par être renversés, humiliés, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. S'exprimant à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la raffinerie de gaz de Bid Boland du golfe Persique au sud de l'Iran, le président iranien Hassan Rouhani l'a qualifié de la réalisation d'un des plus grands projets de la région et du Moyen-Orient, avant de remercier tous les ingénieurs et spécialistes iraniens impliqués dans la construction de la raffinerie. Cet hyper projet s'ouvre le jour où ceux qui prétendaient être en mesure de terrasser l'Iran ont fini par être renversés eux-mêmes avec humiliation et dans la honte, a souligné le président Rouhani. Et le président Rouhani qui s'exprimait lors de la cérémonie d'inauguration du grand projet national mis en exploitation par la société pétrochimique du golfe Persique et avec un investissement de 1400 millions de dollars, a déclaré ce qui tramait des complots et conspirait contre notre nation ont été démasqués devant le monde entier, devant les nations et devant leur propre nation dans les derniers jours de leur maléfique vie. Et tout le monde a saisi à quel point ils étaient antidémocratiques et anti-parlement. Et ils étaient comme ça depuis le début, mais c'était à la fin que leur rideau tombe pour que tout le monde saisisse l'ampleur des crimes perpétrés par ces terroristes contre le peuple américain et le peuple du monde, a ajouté le président Rouhani. S'agissant de la gigantesque raffinerie qui vient d'être mise en exploitation, le président Rouhani a indiqué ce vaste projet unique au Moyen-Orient a été inauguré aujourd'hui par les enfants de cette terre et de cette nation et des forces assidues. Dans les années 2016-2017, grâce à l'accord de nucléaire, plan global d'action conjointe, nous avons pu exporter du pétrole dont une grande partie des revenus a été utilisée par le fonds de développement et nous avons pu ainsi dépenser pour accomplir et mettre en exploitation ce projet, a précisé le président iranien. Le président Rouhani, déclarant qu'une partie de notre puissance nationale est due à notre poids énergétique, a ajouté « En termes de ressources énergétiques, l'Iran occupe une position spéciale importante dans la région avec de 32 000 milliards de mètres cubes de gaz. Il est la plus grande source de gaz au monde. Notre pays est également premier dans le monde en termes de ressources gazières. » S'est félicité de le président Rouhani avant d'insister sur la nécessité de gérer la consommation nationale de l'énergie.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Les forces aérospatiales du corps des gardiens de la révolution islamique ont organisé vendredi et samedi un exercice militaire à grande échelle baptisé le Grand Prophète 15 dans le désert central de l'Iran en mettant en œuvre une opération combinée de missiles et de drones. Le vaste exercice militaire comprenait le lancement d'un barrage de missiles balistiques sol-sol qui ont été suivis par des opérations menées par drones bombardiers offensifs. Au cours de ces exercices, le corps des gardiens de la Révolution islamique a ciblé et détruit les navires fictifs de l'ennemi avec des missiles balistiques de haute précision à une distance de 1800 km. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur le message et l'importance de ces manœuvres, la nouvelle configuration des rapports de force dans l'océan Indien et la mer Rouge et l'entrée en scène de la nouvelle puissance, de cette puissance balistique émergente qui est Ansar Allah du Yémen. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Paris, Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales, et toujours depuis Paris, Monsieur Jacob Cohen, analyste politique. Madame Armidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour à votre invité.
Madame Armidani, événement marquant de ce week-end dans la mer Rouge et l'océan Indien, les exercices militaires à grande échelle du corps des gardiens de la Révolution islamique. En marge de ces manœuvres, le commandant en chef du CGRI, le général Salami, a souligné que l'un des principaux objectifs de ces manœuvres était de pouvoir cibler les navires de guerre ennemis avec des missiles balistiques à longue portée. Quel est le message et l'importance de ces manœuvres au moment où, justement, le secrétaire d'État sortant des États-Unis, Mike Pompeo, continue de, en effet, proférer des menaces de guerre contre la République islamique d'Iran?
En fait, effectivement, ces manœuvres sont très, très importantes sur le plan aussi bien militaire que politique, que social. Et d'abord, je dirais, casse le moral des Israéliens. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis aussi des forces américaines qui sont dans la région et qui ont été, mises en échec jusqu'à présent, aussi bien en Syrie, en Iran, en Irak et aussi... Et aussi au Yémen. Ceci est un message qui montre bien la détermination aussi de l'Iran, non seulement de l'ensemble de l'axe de la résistance, non seulement à se défendre au niveau de la détermination, mais aussi au niveau de la réalisation militaire. Mais aussi à mettre en application aussi les décisions qui ont été prises suite à au vil assassinat du général Qassem Soleimani, qui est de mettre dehors toutes les forces américaines en dehors de toute la région de l'Asie de l'Ouest. Donc en fait, il y a cet aspect, il y a aussi le fait que cela montre quand même aussi à la fois la force de l'Iran, donc sur le plan, à la fois sur le plan militaire, mais sur le plan au niveau des missiles, mais aussi au niveau de la précision de ces missiles et sa détermination aussi à ne laisser passer aucun navire hostile et dans la région, que ce soit israélien, saoudiens, qui d'ailleurs, malheureusement, je rappelle, saoudiens, Bahreïni et Émirats arabes unis qui se sont mis un peu sous le parapluie israélien, en fait, parce qu'on dit qu'ils ont normalisé le rapport. Non, ça, c'est plus que ce sont des accords de coopération, de collaboration à la fois militaire et de renseignement.
Merci pour ces précisions. Madame Armidani, restez avec nous, s'il vous plaît. Je vous le disais en début de cette émission, nous sommes également en ligne avec M. Jacob Cohen, analyste politique. Monsieur Cohen, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie, c'est un plaisir et bonjour à tout le monde.
Bien sûr, l'actualité, ces exercices militaires à grande échelle du corps des gardiens de la révolution islamique. Lors de ces exercices, Monsieur Cohen, le CGRI a mis en œuvre une opération hybride de missiles balistiques et de drones bombardiers offensifs. En d'autres termes, le CGRI a réussi à étendre sa profondeur stratégique dans la mer Rouge et dans l'océan Indien. Quelle est l'importance de cette percée technologique et militaire de l'Iran dans son environnement géostratégique et dans le contexte actuel des évolutions de la région, M. Cohen?
Je prendrai l'aspect politique et diplomatique, c'est-à-dire que, vous savez, si probablement que les négociations vont reprendre entre l'Iran et les pays qui ont signé l'accord, le fameux accord sur le nucléaire, la levée des sanctions, etc. Et en fait, il y a un élément, à cause de la pression du régime sioniste, qui craint par-dessus tout les missiles iraniens depuis quelques années, le régime sioniste a réussi, grâce à ses liens, à réintroduire dans une future négociation qui probablement auront lieu, la problématique des missiles. Et d'ailleurs, on voit que des pays comme l'Allemagne ou la France disent qu'effectivement, alors que la question des missiles n'avait pas été incluse dans le précédent accord, dans les précédentes négociations, là, ils veulent le réintroduire. Et je crois que l'Iran a pris les devants, si vous voulez, en disant... Voilà, ça fait partie de notre souveraineté nationale, ça fait partie de notre potentiel militaire de défense, et il n'est pas question, et au contraire, nous le développons et nous l'améliorons, et il n'est pas question que cela rentre dans les négociations, c'est prenez ça comme un fait acquis, et donc, si vous voulez qu'on revienne aux négociations comme avant, et d'ailleurs l'Iran est tout à fait prêt, eh ben, ce problème sera mis de côté. Le problème des missiles n'entrera pas ne devrait pas entrer en ligne de compte.
Merci pour ces éclairages, M. Cohen. Restez avec nous, s'il vous plaît. Madame Midani, on semble assister aujourd'hui à un déplacement du foyer des tensions du Golfe Persique vers la mer Rouge. Alors, dans cet état de choses... dans quelle mesure Ansar Allah, le mouvement yéménite Ansar Allah, qui vient d'être blacklisté par l'administration américaine sortante, l'administration Trump, pourrait s'imposer comme un facteur, en effet, déterminant dans un éventuel conflit, mais aussi sur le cours des événements. Vous avez évoqué tout à l'heure justement dans ce processus de normalisation, de coopération des pays riverains du Golfe Persique avec l'entité sioniste.
Je crois que de toute façon, effectivement, le fait de mettre Ansar Allah sur la liste des organisations terroristes est une véritable provocation par les Américains, mais qui est faite sous la pression israélienne. Ça, il faut le dire. Et puis, d'ailleurs, on a vu aussi que Ansar Allah, ils ont tiré des missiles sur la ville de Neom lorsqu'il y avait les rencontres entre Netanyahou et Mohammed Ben Salman, avec d'ailleurs, il y avait Yossi Cohen, le directeur du Mossad. Donc, ce missile a été tiré et c'était aussi une mise en garde de l'Arabie saoudite. Mais je voudrais aussi dire que Israël, depuis 2015, est partie prenante aussi dans cette guerre de destruction du Yémen, qui a été, rappelons-le, pratiquement commandité par les Américains lorsque Obama était venu, soi-disant, présenter ses condoléances lorsque le roi Abdullah est décédé. Et aussitôt qu'il est parti, donc cette guerre a été déclenchée contre le Yémen. Donc, en fait, les hostilités israéliennes dans la mer Rouge, en plus du fait qu'ils ont insisté aussi et ils ont fait des pressions, les Américains ont fait, et les Saoudiens ont fait des pressions pour que l'Égypte donne aussi à l'Arabie saoudite les îles de Sanafir et l'île de Sanafir. Et aussi, ils ont assuré les Israéliens de la liberté de passage. En fait, donc, tout ça, ça préparait une volonté israélienne de domination de la mer Rouge. Et en fait, d'où ça devient effectivement un véritable, véritable menace pour la sûreté nationale, pas seulement de l'Iran, mais de l'ensemble des forces du front de la résistance. Je voudrais rappeler aussi que des navires iraniens ont été arrêtés dans la mer Rouge en destination de la Syrie. Et ils ont été aussi arrêtés par, soi-disant, les Égyptiens, mais on voit aussi qu'il y a les Israéliens derrière. Donc, en fait, ceci est une... et le fait qu'ils aient mis, en plus, Ansarullah comme organisation terroriste, ça montre la volonté hostile, effectivement, et belliqueuse, je dirais, des Israéliens, des Américains et de l'ensemble de ceux qui soutiennent Israël. En fait, ça devient un vrai risque pour toutes les forces de résistance et de la population, en fait, que ce soit aussi bien en Iran, au Yémen, en Syrie, au Liban, en Irak et bien sûr en Iran. Donc ça, c'est quand même aussi un point très très important. Et l'importance de ces manœuvres aujourd'hui, c'est montrer que de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous défendons notre indépendance nationale, notre souveraineté nationale, notre sûreté nationale, parce que c'est notre droit et nous faisons tout pour ça. Voilà.
Merci encore, Madame Medani. Monsieur Cohen, l'axe américain sioniste chercherait d'une manière ou d'une autre, concernant les évolutions en mer Rouge, à couper la voie maritime et stratégique, le détroit de Bab el-Mandeb, à l'Iran, à la Syrie, à l'Irak, à la Chine et même à la Russie. Alors, avec les récentes évolutions, notamment le retour du porte-hélicoptère géant iranien, Macron, alors dans cette région, le blacklistage du mouvement yéménite en Sarallah, à quel scénario faudrait-il s'attendre? En d'autres termes, quelles sont désormais les marges de manœuvre du tandem américain-israélien?
Bon, je dirais ceci, c'est que depuis une vingtaine d'années, le régime sioniste a poussé à une espèce de confrontation tous azimuts, c'est-à-dire diplomatique, économique, financière. Il a fait pression sur les pays, tous les pays occidentaux, prétextant que l'Iran voulait effacer Israël de la carte. Ça veut dire qu'il y allait y avoir un deuxième génocide, et l'Occident est très sensible à ce genre d'argument. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette argumentation, elle est développée par un organisme américain qui s'appelle le MEMRI, qui est supposé traduire en anglais, en français, etc., les discours iraniens. Et donc, il les traduit dans le sens qui lui va le mieux. Et comme les médias sont tenus, on sait, grosso modo, par le lobby judéo-sioniste, donc on n'entend pas vraiment le son de cloche iranien. Et d'ailleurs, ça se voit ici. Le son de cloche purement iranien est très peu entendu, peut-être 10% ou 20% maximum des médias et du public. Et donc, mais malgré tout, on peut estimer que pendant 20 ans, l'Occident et Israël n'ont jamais osé franchir le pas de la confrontation. Bon, je ne suis pas un spécialiste militaire, mais disons que s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils se sont rendus compte que le prix à payer était très très élevé. Et à mon avis, s'ils avaient pu le faire comme en Irak, comme d'autres pays, à mon avis, ils auraient osé l'aventure. mais comme il y a un prix à payer, ils le savent, ils sont restés jusqu'à présent dans le domaine des menaces, des sanctions, des négociations, etc. Donc, je ne crois pas je suis qu'un simple observateur. Ceux qui savent ce qui va se passer sur le plan militaire sont peut-être quelques dizaines. Mais, disons, je ne crois pas qu'on franchira le pas vers une confrontation militaire, d'autant plus qu'avec ces missiles, on sait très bien qu'il y a un point très faible au niveau des alliés, des Arabes ou les monarchies du Golfe dans la région, c'est qu'ils seront les premiers visés. Parce que ça sera une confrontation globale, et donc pour l'Occident, ça sera une perte terrible. Ça veut dire la fermeture du détroit, la destruction d'une grande partie du pétrole. Et donc, à mon avis, tout ça joue en faveur de la confrontation à laquelle on assiste est plus une espèce de partie de poker pour monter les enchères, trouver un modus vivendi. Les dernières manœuvres iraniennes ont montré que une confrontation militaire serait encore beaucoup plus difficile pour l'Occident. Et donc, on arrivera probablement pas une confrontation militaire, mais diplomatique, politique, financière.
Monsieur Cohen, avec le départ de Donald Trump et l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, qu'est-ce qui va changer dans le discours anti-iranien de l'entité sioniste et des milieux, en effet, pro-israéliens aux États-Unis?
Il y a une espèce de contradiction chez les démocrates. C'est-à-dire, d'un côté, les démocrates ont lancé des guerres au Moyen-Orient et ailleurs, et en même temps, les démocrates ont cherché un accord avec l'Iran. Et donc, c'est très difficile d'imaginer ce qui va se passer. Bon, on peut estimer que Biden cherchera à revenir à un accord avec l'Iran. Je crois qu'ils chercheront plutôt cette issue diplomatique. En même temps, les démocrates ils sont un peu nerveux de la gâchette. Et donc, malheureusement, ils pourraient chercher une aventure militaire quelque part. Mais ceci dit, comme je l'ai dit précédemment, je ne crois pas qu'ils la chercheront du côté iranien.
Monsieur Jacob Cohen, écrivain et analyste politique, Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Au revoir. Merci.
N'hésitez pas à suivre nos émissions sur notre site http://parstoday.com/fr. Pars Today est actif essentiellement sur la toile et les réseaux sociaux, mais il diffuse son contenu en ondes courtes ou encore via des applications mobiles. Les toutes dernières évolutions politiques au Moyen-Orient, l'euro axial qui joue l'Iran en qualité d'une puissance régionale et pays à la fois sûr et prospère sont largement traités à travers les articles et les émissions présentes sur le site Pars Today, ce qui en amplifie l'importance dans la sphère médiatique régionale. Le service français de Pars Today utilise divers médias pour présenter ses productions politiques, culturelles et religieuses. Son objectif n'est que de permettre aux internautes de voir plus clair dans un monde où les médias mainstream manipulent l'opinion. Les locuteurs français pourront suivre l'actualité iranienne, moyen-orientale et africaine et francophone sur Pars Today à l'adresse suivante http://parstoday.com/fr.
le porte-avions italien Cavour, après avoir été restructuré pour embarquer les chasseurs F-35, est sur le point d'appareiller vers les États-Unis. L'annonce a été faite par l'attaché naval de l'ambassade italienne à Washington, précisant qu'à partir de la mi-février, le porte-avions sera déployé dans la base de Norfolk en Virginie. Ainsi, prépare-t-on la participation du navire amiral de la marine italienne à des missions OTAN sous commandement USA. Tout cela a un coût, que ce soit en termes politiques en liant de plus en plus l'Italie à la stratégie de guerre USA-OTAN ou en termes économiques. Le porte-avions Cavour a coûté 1,3 milliard d'euros. Les 15 F-35 pour la marine coûtent 1,7 milliard d'euros. Mais comment financer ce projet dans une situation de crise comme celle d'aujourd'hui? Et voilà l'idée géniale accouchée par le Center of American Progress, un des plus influents think tanks de Washington lié au Parti démocrate, que l'OTAN crée sa propre banque pour résoudre le fossé financier. Autrement dit, une fois la banque instituée, les pays de l'Alliance qui n'ont pas les fonds pour augmenter la dépense militaire au niveau requis peuvent les recevoir en prêt par l'OTAN elle-même à travers sa nouvelle institution financière. Aucun problème donc pour l'Italie. Si elle n'a pas les 10 milliards d'euros à ajouter chaque année à sa dépense militaire, la banque OTAN les lui prête à un taux d'intérêt non précisé. Mais l'Italie accumulerait ainsi une nouvelle et croissante dette étrangère avec un organisme contrôlé par les États-Unis qui détiennent le commandement de l'OTAN. Écoutons à ce sujet l'analyse de Philippe Hugon, analyste politique et reporter de guerre.
Alors, je pense qu'il faut voir ça et le diviser en deux parties. Il y a d'une part le volet financier de l'opération et d'autre part le volet stratégique. Alors, je vous rassure tout de suite, l'ensemble de ces deux volets sont catastrophiques. D'une part, au niveau financier, hein, puisqu'on va dépendre un peu plus des États-Unis et qui nous verrouille dans un système de politique étrangère dépendant des États-Unis. Alors, ça montre bien qu'on n'a plus en Europe aucune indépendance dans notre politique étrangère vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde et plus particulièrement au Moyen-Orient. Et puis, il y a le volet financier. Alors, on sait bien que les États-Unis sont en faillite financière. Hein. Ils viennent d'annoncer d'ailleurs la relance d'un plan de 1900 milliards de dollars. Je me demande vraiment où ils vont les trouver. Enfin, ils vont créer une nouvelle fois de la fausse monnaie, hein, comme ils ont l'habitude de le faire. C'est pas nouveau. Hein. L'Europe le fait également, puisqu'elle a injecté 600 milliards de fausse monnaie dans le système européen. Alors, moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que dans une telle période économique où on a des clochards dans les rues, des sans-domicile fixe qui sont de plus en plus nombreux dans les rues, on voit des gens qui n'arrivent plus à se nourrir. Vous le voyez d'ailleurs, vous trouvez d'ailleurs de nombreux reportages sur ce sujet sur YouTube. Et là, on va dépenser des milliards d'euros dans des opérations militaires qui ne servent strictement à rien, si ce n'est que de créer encore un peu plus d'injustice, non seulement au niveau européen, mais également pour les pays dans lesquels nous allons encore une fois intervenir. C'est ce qu'on appelle de l'ingérence, hein. Et je trouve ça très déplacé vis-à-vis des peuples aujourd'hui de dépenser autant d'argent quand il y a autant de problèmes économiques, autant de difficultés financières, autant de gens qui sont dans les rues et qui n'ont plus rien. Et on dépense des milliards d'euros, des milliards de dollars, hein, puisque aux États-Unis, c'est une véritable catastrophe. Hein. Alors, moi, je suis très inquiet pour la situation qui arrive, puisque petit à petit, on installe des dictatures qui ne ressemblent pas à des dictatures, mais qui en sont malgré tout, puisque ce sont des dictatures financières. Donc, on appauvrit les peuples. Et grâce au coronavirus notamment, puisque il faut bien savoir que ce virus a été lâché délibérément dans le monde, hein, ce virus n'est pas apparu comme ça par hasard, ça permet bien sûr d'écraser les sociétés civiles et de faire accepter aux gens des choses qu'ils n'auraient pas acceptées sur un plan politique. Donc on a pu le faire par le biais de ce problème sanitaire du coronavirus. Et moi je trouve ça extrêmement dangereux pour l'avenir, Et je trouve qu'aujourd'hui, les situations économiques sont absolument incontrôlables, et pas seulement les solutions, les situations économiques, mais les situations générales. Donc, je comprends bien sûr les États qui posent des pansements sur des jambes de bois, donc ce qui ne sert à rien, puisqu'en fait, on va droit dans le mur. Alors, on essaye de retarder ce moment le plus possible, hein. Mais plus on retarde ce moment, et plus ça va être violent et rapide quand cet effondrement va arriver. Et on joue vraiment avec le feu, et on va vraiment avoir une situation explosive dans les années qui viennent, puisque je pense que dans les 8, 10, 12 ans peut-être maintenant, on aura un effondrement général qui sera une situation que nous avons jamais connue auparavant, puisque ça va toucher le monde entier et plus particulièrement les pays de l'hémisphère nord. C'est une situation extrêmement catastrophique qui va nous arriver dessus dans quelques années. Et je vois dans la société civile, que ce soit en France ou en Europe ou même aux États-Unis, on peut voir tous ces peuples qui sont dans le déni des réalités et qui ne voient pas du tout ce qui va arriver. Et je trouve ça extrêmement grave aujourd'hui.
Golfe Persique, la guerre de 30 ans, Bush, la nouvelle ère de l'espoir commence. Le 17 janvier 1991, à 2h20 précisément, à l'heure du Golfe Persique, des hélicoptères américains pénétrèrent en territoire irakien, détruisant avec des missiles Hellfire deux stations radar. Immédiatement après, des missiles de croisière Tomahawk et des chasseurs Stealth F-117A frappèrent d'autres centres névralgiques, aveuglant entièrement les défenses anti-aériennes de la capitale. CNN a retransmis dans le monde entier les images du ciel de Bagdad illuminées par les fusées traçantes de la défense anti-aérienne qui tiraient à l'aveugle, un spectacle que le reporter compare au feu d'artifice festif du 4 juillet, donc la fête nationale de l'indépendance aux États-Unis. Ainsi commença ce que le Pentagone a décrit comme l'action militaire la plus destructrice jamais effectuée en aussi peu de temps avec des armes non nucléaires. Deux modèles de guerre future. Paradoxalement, la guerre éclata au moment où éclata la paix, selon un slogan de l'époque. Après la chute du mur de Berlin en 1989, vont se dissoudre le pacte de Varsovie et l'Union soviétique. La guerre froide est terminée, nous sommes entrés dans une nouvelle ère qui offre un grand espoir, annonce le président Bush. Mais la crise du Golfe Persique nous rappelle qu'il y a encore dans le monde des sources autonomes de turbulences. En réalité, la turbulence est amorcée par Washington pour tirer le plus grand avantage du fait que, avec la désagrégation du bloc soviétique, les États-Unis, comme ils déclarent officiellement, restent le seul État avec une force, une portée et une influence en toutes dimensions, aussi bien politique qu'économique et militaire, mais réellement mondiale. Il n'existe aucun substitut au leadership américain. Après avoir soutenu dans les années 80 l'Irak de Saddam Hussein dans la guerre contre l'Iran, les États-Unis poussent le Koweït, qui a aidé l'Irak à combattre l'Iran, à exiger de Bagdad le remboursement immédiat d'un prêt de dizaines de milliards de dollars et aussi à exploiter outre mesure, au détriment de l'Irak, le gisement pétrolifère qui s'étend sous les deux territoires. Tandis que croît la tension entre les deux pays, le 25 juillet 1990, l'ambassadrice américaine à Bagdad, April Glaspie, assure à Saddam Hussein avoir des instructions directes du président pour rechercher les meilleures relations avec l'Irak et que nous n'avons aucune opinion sur votre dispute avec le Koweït. Une semaine après, avec une colossale erreur de calcul politique, l'Irak envahit le Koweït en proposant ensuite de se retirer en échange de concessions déterminées, parmi lesquelles l'accès au golfe Persique qui lui avait été refusé quand la Grande-Bretagne avait redessiné dans les années 20 la carte du Moyen-Orient. Le piège est ainsi déclenché. Les États-Unis, qui ont depuis longtemps préparé la guerre en observant avec leurs satellites militaires le déploiement des forces irakiennes, mais aussi en repérant les objectifs à frapper, ont formé donc une coalition internationale qui envoie dans le golfe Persique une grande armée de 750 000 soldats sous les ordres du général américain Schwarzkopf. En novembre 1990, le Conseil de sécurité de l'ONU approuve avec 12 voix pour, y compris celle de l'URSS, 2 voix contre, celle de Cuba et du Yémen, et aussi l'abstention de la Chine, la résolution 678 qui autorise l'usage de tous les moyens nécessaires contre l'Iran. La guerre du Golfe Persique est la première guerre à laquelle participe, sous commandement américain, la République italienne, violant ainsi l'article 11 de sa propre constitution. L'OTAN, tout en n'y participant pas officiellement en tant que tel, met à disposition ses forces et ses bases. Immédiatement après la guerre, l'OTAN lance, sur le modèle de la nouvelle stratégie américaine, le nouveau concept stratégique de l'Alliance, que l'Italie recopie avec le nouveau modèle de défense. On passe ainsi de guerre en guerre, en les présentant comme des opérations humanitaires pour l'exportation de la démocratie, comme en Yougoslavie en 1999, en Afghanistan en 2001, en Irak en 2003, en Libye et en Syrie en 2011 et encore bien d'autres guerres. Cette guerre est celle qui, selon ce que déclare Bush en 1991, allait ouvrir un avenir meilleur, une nouvelle communauté mondiale réunie par le consensus croissant que la force ne peut être utilisée et que pour cela, la crise du Golfe Persique passera dans l'histoire comme le creuset du nouvel ordre mondial. En témoignent les millions de morts, les invalides, les orphelins, les réfugiés provoqués par la guerre du Golfe Persique, auxquels s'ajoutent 1,5 million de morts, dont 500 000 enfants, provoqués par les 12 années successives d'embargo contre l'Irak et par les effets à long terme des projectiles à l'uranium appauvri, outre les nombreux autres provoqués par la nouvelle guerre de 2003. La traînée de morts, sortie il y a 30 ans de la première guerre, de l'après-guerre froide continue à se propager. Dans la guerre appelée « tempête du désert », l'aviation américaine et alliée effectue en 43 jours, avec 2800 avions, plus de 110 000 sorties, larguant 250 000 bombes, y compris ceux à fragmentation qui lâchent en même temps plus de 10 millions de sous-munitions. Sont utilisés par les forces aériennes et terrestres 700 à 800 tonnes de projectiles à l'uranium appauvri, dont 1 million de 30 mm tirés par avion et hélicoptère et 14 000 de 120 mm tirés par les chars d'assaut. Sont utilisés aussi des milliers de têtes à l'uranium appauvri dont sont dotés les missiles de croisière et les fusées. Sont aux côtés des forces américaines 36 000 soldats britanniques et 15 600 soldats français. L'Arabie saoudite envoie 67 500 effectifs, l'Égypte 35 600, la Syrie 20 800, les Émirats 14 000, le Pakistan 10 000 et plus 2000 moudjahidines afghans, le Canada de son côté 2200, le Bangladesh 2000, l'Italie 1300, le Maroc 1200, l'Australie 600, l'Espagne 500, les Pays-Bas et la Belgique 400 chacun, la Grèce 200, participent avec des forces militaires provenant aussi de la Turquie, du Danemark, de la Norvège, de la Bulgarie, de la Nouvelle-Zélande, de la Sierra Leone, de l'Argentine, de l'Honduras, le Sénégal et aussi le Niger. Un déploiement sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, composé de forces provenant de tous les continents. Les États-Unis, qui fournissent 70% des 750 000 soldats de la coalition, engagent dans la guerre 75% de leurs avions tactiques, à savoir 1950 sur les 2600, 42% de leurs chars d'assaut les plus modernes, soit 2500 sur les 6000, 46% de leurs porte-avions, soit 6 sur 13, 37% de leurs effectifs terrestres, soit 280 000 sur les 761 000, 46% des marines, 90 000 sur les 195 300 existants. Le sénateur Joe Biden, qui vient de prêter serment comme 46e président, avait voté en faveur du déclenchement de la guerre.